Pauline Pucciano, Paradict, 5 octobre 2071, rue de la Nouvelle-France. Qui sont vraiment les antispécistes? Sixième extinction massive, disparition officielle des gibbons. Torrent de boue à Vancouver, 2500 habitations évacuées. Alvar avait passé des heures à rechercher des traces de Marek Escanza sur Internet. Mais ce nom n'apparaissait nulle part, à tel point qu'il finit par se demander si l'ordinateur qu'il avait retrouvé dans la caravane ne lui appartenait pas réellement, tout vide qu'il était. Quelque chose pourtant clochait. Ce délicat passait des heures dans sa roulotte et gagnait suffisamment d'argent pour s'offrir des vêtements chers. Tout le monde semblait tenir pour acquis qu'il gagnait sa vie sur Internet. Il était donc impossible qu'il n'existât pas de traces de ses transactions ni de ses activités sur la toile. L'explication la plus simple était qu'Alvar utilisait la mauvaise clé pour ouvrir cette porte verrouillée. Le nom de Marek Escanza ne menait à rien. Marek devait donc en utiliser un autre, restait à savoir lequel. Alvar se dit tout d'abord que Marek avait probablement eu de mauvais rapports avec son père. Il fit des recherches auprès du patron pour connaître le nom de famille de sa mère et y tenta de lancer des recherches sur ce nouveau nom, Marek Samari. Il tomba sur une douzaine d'homonymes aux profils variés, qui ne semblaient pas correspondre. Les uns n'étaient pas délicats, les autres étaient sédentaires, les derniers enfin étaient trop âgés. Aucun ne pouvait désigner le Marek qu'il connaissait. Marek avait peut-être utilisé son prénom seul, mais les Marek, qui étaient à la fois délicats et nommes, étaient encore beaucoup trop nombreux pour représenter une liste satisfaisante. Peut-être avait-il utilisé une anagramme. Cette idée le retint longtemps. Il utilisa un logiciel de génération d'anagrammes et les regarda défiler, sceptique. Kraken Mazas, Ramsès Kanak, Rakens Zamak, Marsens Kaka, Marnes Kaska. Il choisit ceux qui sonnaient le mieux et fit des recherches dessus sans succès. Et puis, il remarqua qu'en déplaçant simplement la lettre S, on obtenait Marek Kanzas. C'était l'anagramme la plus simple, la plus élégante, presque identique au nom initial. Avec un peu d'appréhension, il lança une recherche sur Marek Kanzas et ne fut pas déçu. Marek Kanzas avait de multiples comptes personnels et professionnels, et devant le filon déniché par le moteur de recherche, Alvar eut un frisson d'excitation. Un quart d'heure de recherche suffit à lui faire trouver une photo sur un réseau social qui confirma son hypothèse. Même s'il n'avait rencontré que son cadavre, il avait une idée suffisante du physique de Marek pour le reconnaître dans le délicat poseur, aux airs un peu mystérieux, qu'il découvrit sur un profil d'utilisateur. À partir de là, toute la vie de Marek se déplia sous ses yeux, sur son écran. Alvar ne put s'empêcher de penser à l'épisode de la Madeleine de Proust où le narrateur voit toute une époque se reconstituer dans sa mémoire. Il chercha la formule exacte. Il pensait que cela finissait par « tout cela qui prend forme et solidité est sorti, vit les jardins, de ma tasse de thé ». La même profusion magique s'était déclenchée dans l'écran de son ordinateur. Il pensa aussi à la liseuse de signes. Ne venait-il pas de déplier la réalité ? L'existence entière de la victime, qui demeurait jusqu'à présent invisible et opaque, qui se dérobait derrière le silence obstiné du cadavre et de la scène de crime, jaillissait à présent du moteur de recherche. Il en avait plus qu'il n'en avait espéré, non pas une piste, mais cent. Alvar sut, à partir de cet instant, qu'il finirait par résoudre son enquête. Il lui faudrait peut-être longtemps, mais il avait là tout le matériau nécessaire. Au seuil de cette exploration étrange de la vie d'un mort, il s'interrompit un instant. Qui d'autre que lui se pencherait maintenant sur tous ces petits détails de la vie de cet homme? Qui d'autre que lui convoquerait son fantôme afin d'essayer de comprendre la raison pour laquelle il avait été abattu froidement dans sa roulotte? Il lui semblait qu'un fil ténu le reliait à ce mort, le fil d'une recherche du sens. Il le suivrait passionnément dans tous ses méandres, comme le biographe suit le grand homme, afin d'appréhender la cohérence invisible qui se dérobe sans cesse. Pas le sens de sa vie, non, mais le sens de sa mort, ce qui revenait parfois au même. « Je crois que je le tiens, » fit Alvar à haute voix. « Ton délicat ?» demanda complaisamment Samir. « Oui, regarde. » Samir leva les yeux du rapport qu'il était en train de rédiger et admira sur l'écran de son collègue l'étonnante quantité d'informations qui s'étaient mises à éclore, toutes ensemble, comme les récompenses colorées d'un jeu vidéo. Puis il se replongea dans son rapport tandis qu'Alvar s'étirait. Marek Kanzas avait une multitude d'amis sédentaires sur les réseaux sociaux, à qui il faisait partager des photographies de la route, qu'il commentait parfois d'une plume pleine d'ironie. Alvar en enregistra quelques-unes, notamment trois visages d'enfants, en noir et blanc, avec des fils barbelés et une éolienne en arrière-plan. Le paysage était désolé, et les enfants plutôt négligés, mais quelque chose pétillait en eux et le vent qui balayait leurs cheveux sales semblait frais. Marek avait laissé comme commentaire les trois plus intelligents de la caravane. D'autres photos étaient plus sombres, comme cette jeune femme fripée, peut-être battue, qui fumait une cigarette adossée à sa roulotte. Les volutes de fumée rendaient floues les peintures bariolées sur le bois, et les larmes avaient semblablement fait couler le noir de ses yeux et le rouge de ses lèvres. Marek avait écrit « Bienvenue au XXIe siècle ». Une troisième représentait un vieux chien, aux poils blanchis, le regard humide, la langue pendante, sur fond de vaisselle sale, entassée sur une nappe. La légende disait « Compagnon d'infortune dans cette vie de chien, obligé de manger du riz ». Alvar commençait à bien aimer ce type, et lorsqu'il repensait à la scène de crime, c'était d'une manière nouvelle. Ce n'était plus seulement un être humain qui s'était fait descendre de sang-froid. C'était une intelligence, une sensibilité, un regard qui s'était éteint par la force d'une main brutale. Alvar regrettait qu'il n'y ait pas eu quelqu'un, n'importe qui, pour s'interposer. Marek avait aussi des comptes en banque, dont un compte en bitcoin, et des abonnements variés à des journaux, des sites culturels, des magasins aux quatre coins du monde. Alvar n'avait pas encore l'accès aux informations confidentielles, mais il surfait déjà sur la vague numérique puissante d'un internaute cultivé, engagé dans de multiples directions. Et puis, il y avait aussi sa page professionnelle, qui surprit Alvar par la beauté vraiment exceptionnelle de son graphisme. Marek Kanzas, architecte. Les photos de publicité représentaient des lieux idylliques, empreints pour la plupart d'une poésie un peu mélancolique. Des bassins circulaires reflétant par un puits de lumière des branches blanchies par le givre ou de pâles lunes voilées. Des temples gigantesques dont la voûte était soutenue par des arbres noueux. Des jardins luxuriants où les fleurs tropicales laissaient entrevoir des sculptures épurées. Des escaliers monumentaux ne menant qu'à une plateforme isolée, surplombant un paysage désert. Alvar se sentait un peu confus. Où donc Marek pouvait-il avoir trouvé le temps, tout en voyageant sur la route, de construire tant de réalisations dans des pays si éloignés? Et puis il éclata d'un petit rire moqueur. « Il t'amuse, ton délicat ?» demanda Samir. « Non, c'est de moi que je me moque. Vise un peu ça. » Samir se déplaça pour mieux voir. « Waouh ! Tu as les coordonnées de ces lieux ?» Alvar soupira. « Jusqu'à il y a un instant, je croyais que c'était la page d'un architecte du monde réel. » Samir se moqua à son tour. « Quand la réalité ressemblera à ce point au paradigme, tu me préviendras que je me déconnecte. » « Mon délicat est architecte pour le paradigme, et visiblement il gagne très bien sa vie. » « Il gagnait très bien sa vie. » « Oui, tu as raison, mais comme je viens de le rencontrer, j'ai toujours l'impression qu'il n'est pas encore mort. » Samir ne l'écoutait pas. Il avait pris les commandes et feuilletait les pages du site. Marek créait le design de lieux, mais aussi d'objets, d'anges, de créatures. « Qui peut vouloir tuer un architecte du paradigme ?» demanda Samir. « Ces mecs sont des génies !»« Je ne sais pas, » fit Alvar rêveusement. « Son style est vraiment personnel. » Ils apprécièrent, en connaisseurs, les silhouettes numériques un peu dégingandées, graciles et pourtant élégantes, qu'il avait faites sur mesure pour des utilisateurs fortunés, et les multiples objets d'art et notamment les meubles qu'il avait créés pour le paradigme. Samir éberlué répétait. « Qui peut bien vouloir tuer un gars pareil ?» Un client dont la maison a pris l'eau, peut-être. Ils rirent tous les deux, sans beaucoup de conviction, avant de se replonger chacun dans leur travail. Dans le demi-jour accablé des locaux de la police globale, le visage blême d'Alvar reflétait des taches de couleurs changeantes, et ses yeux fatigués se chargeaient des rêves d'un mort. Au Blue Note, ce soir-là, Sonia arriva plus tôt que d'habitude, et elle entra en salle avant de monter sur scène. Un pianiste jouait des mélodies de jazz en mode mineur. Les accords s'égrenaient comme si la mélodie était un chemin de douleur, avec lenteur, avec une pesanteur qu'Alvar n'arrivait pas à définir. « J'aime bien son toucher, » fit Sonia, en s'asseyant en face de lui. « Il est plein de gravité. » Alvar, qui avait bu déjà la moitié de son verre d'alcool, flottait entre deux états et la contempla un moment avant de répondre. Elle avait une robe noire qui contrastait avec la blancheur piquetée de sa peau. La gravité, c'est le mot que je cherchais. Un mot pour dire à la fois la tristesse et la pesanteur. « Ça nous va bien, non ?» sourit Sonia. Alvar la regarda. Il n'était pas rare qu'elle vienne échanger quelques mots avec lui, mais ce soir, il lui semblait que quelque chose était différent dans son attitude. « Ça va, toi ? » demanda-t-elle. « Non, ce boulot me vide. Tu as envie d'en parler ?»« Je n'arrive plus à voir autre chose que ce que les gens cachent, comme si toutes les façades sociales étaient devenues invisibles. Je vois les fêlures, les échecs, les violences, les solitudes. Les gens sont malheureux, ils n'arrivent pas à vivre, ils font tous semblant. » Sonia ne fut pas surprise ou choquée par sa réponse. Elle ne chercha pas à lui dire qu'il était pessimiste. Elle hocha simplement la tête, compréhensive. « Moi, je vois des morts violentes, » dit-elle à mi-voix. Ils restèrent un moment silencieux à écouter le pianiste. Le trouble que ressentait Alvar en sa présence était d'une nature particulière, très atténuée par rapport à ce qu'il avait ressenti au début. Sonia l'émouvait, mais il s'était habitué à sa présence intouchable, comme si elle était la femme de son meilleur ami, interdite par des lois informées. Elle s'approcha de lui, suffisamment pour qu'il sente son parfum, et il ne put s'empêcher de fermer les yeux un instant pour se laisser porter par l'effluve. Lorsqu'il les rouvrit, Sonia avait la tête renversée en arrière sur le dossier, dans une sorte d'abandon qui ne lui était pas coutumier. Elle tourna la tête pour le regarder. « Qu'y a-t-il, Sonia ?» Elle sourit comme pour elle-même. « Tu ne ressembles pas à ton frère, » dit-elle. Alvar, qui ne s'attendait pas à l'évocation d'Abel, se raidit un peu. « Tu l'as vu récemment ?»« J'ai couché avec lui l'autre soir, à l'exhibit. » Elle avait parlé avec une voix lente, grave, sans provocation, mais cela brisa instantanément l'atmosphère ouatée qui commençait à les envelopper tous les deux. « Je ne vois pas en quoi ça me regarde, » dit-il d'un ton sec. Sonia allait répliquer lorsque la musique du piano s'arrêta. C'était à elle. Elle lança un regard embarrassé à Alvar, puis grimpa sur la scène et saisit sa guitare. Il resta pendant quelques minutes, mais se promit de quitter le bar avant la fin de la chanson. Il était hors de question qu'elle lui fasse des confidences sur sa folle nuit avec Abel, hors de question qu'il entende un mot de plus à ce sujet. Elle plaqua une suite d'accords un peu tristes et se mit à chanter de sa voix éraillée. Alvar faillit se laisser prendre à ce chant. Elle paraissait à nouveau si fragile. Sa peau blanche semblant lutter contre l'obscurité qui la menaçait, sa voix cassée contre le silence qui l'environnait, et toute sa beauté mélancolique contre la laideur du monde. Elle était une braise en train de s'éteindre, qui rougeoyait avec intensité. Il termina son verre cul sec au milieu de la chanson, et sortit. L'alcool le faisait passer du coq à l'âne et libérait en lui des associations illogiques. Il voyait Sonia dans les lueurs des flammes, jouer de sa guitare au milieu des noms. Il se voyait lui-même, derrière un drap qui claquait au vent, lui faire l'amour contre une roulotte. Il voyait Sonia avec sa robe noire troussée, empoignée par son frère. Il revivait la scène du dernier dimanche lorsque lui et Abel s'étaient sentis si proches après la fusillade. Et il se voyait décochant un coup de poing à Abel qui tordait définitivement son joli nez aquilin. Ce n'était pas à elle qu'il en voulait. Elle se contentait d'être ce qu'elle avait toujours été, un rêve à peine palpable, un fantasme qui répandait le sillage d'un parfum, une idée d'étreinte à jamais reportée. Mais lui, avec toutes les filles qui lui tournaient constamment autour, comment avait-il pu lui faire ça au nom d'un simple caprice? Il traversa les deux rues qui le séparaient de chez lui, et, une fois rentré, se précipita sur son ordinateur mobile. La musique du paradicte lui fit l'effet d'un bain de jouvence, d'un remède miracle qui le délivrait d'un coup de sa vie migraineuse et chaotique. Il fit le tour de la maison pour voir si Elina se trouvait là, mais son ange était en train de dormir. Il la caressa longuement, heureux de sentir sous ses doigts, à travers les gants d'immersion virtuelle, la texture veloutée de sa peau tiède. Il ressentit une pointe de désir, mais la réprima et décida de sortir. Le paradicte n'offrait pas seulement l'équivalent technologique des villas romaines pour se consacrer à l'otium d'une vie d'esthète ou d'hédoniste. Il était aussi un vaste espace de socialisation, d'une autre socialisation, qui s'opérait selon des lois radicalement différentes de celles du monde. Tout d'abord parce qu'il n'y avait pas d'argent dans le paradicte, pas de puissants, pas de pauvres, pas de classe sociale. Tous les anges se déplaçaient, parlaient et créaient en toute liberté. L'imagination et la capacité de programmer étaient les seules limites, mais il n'y avait pas de propriété intellectuelle, et tous les objets étaient en open source. On pouvait trouver par hasard un objet quelconque, un vêtement pour son ange, une créature, une fleur, un lieu, et le dupliquer sans effort. On pouvait même le modifier légèrement, y apporter son coup de griffe, y graver son prénom comme sur les arbres de jadis. Ce qui avait de la valeur dans le paradigme, c'était les idées, l'inventivité, l'élégance, la beauté, la capacité à créer la surprise et l'émerveillement. Tous les lieux, tous les objets s'échangeaient aussi librement dans cet espace illimité que les paroles sur terre. Les paroles sans cesse recréées, renouvelées, échangées, avaient toujours échappé au secteur commercial et étaient devenues le modèle alternatif de l'échange. Comme dans un vaste forum où la parole des grands orateurs côtoie, nourrit et domine celle des modestes bavards, la contribution aux beautés du paradigme était inégalement répartie. Certains anges ne faisaient que la consommer et l'admirer, d'autres la produisaient occasionnellement, les architectes en faisaient leurs préoccupations quotidiennes. Marek Eskanza avait été l'un de ces contributeurs éclairés, et ce qu'il faisait payer à des utilisateurs fortunés, en dehors du paradigme où ne circulait aucune monnaie, c'était son savoir-faire technique, son originalité. L'utilisateur lui payait une grosse somme dans le monde réel, et Marek lui fournissait un ange sur mesure qu'il n'aurait pas su faire lui-même. Les anges étaient les seuls programmes dont les sources n'étaient pas totalement libres. Un verrou inconscient avait enfermé l'identité dans ce bastion induplicable. On ne pouvait rencontrer un ange et copier son apparence, et Alvar s'était toujours demandé si cette restriction n'avait pas été une erreur. On avait bien vu les dérives que cette fermeture partielle du code avait engendrées. Les anges, par leurs différents degrés de perfection et de complexité, finissaient par représenter des castes, et la hiérarchie sociale, si soigneusement évitée, avait trouvé là une brèche où s'engouffrer. Il existait une infinité de spots sociaux, où l'on se retrouvait en fonction de ses centres d'intérêt, ou simplement de ses envies du moment. Ils étaient souvent dessinés comme des parcs, des foires ou des places de village, parfois comme des villes. Alvar se rendit à l'un de ses spots préférés. On y trouvait côte à côte des lieux où les musiciens pouvaient taper le bœuf, des expositions de street art et des cinémas diffusant des vieux films. Alvar se balada pendant près d'une heure sur un parcours urbain en trois dimensions, où les œuvres prenaient pour support les objets les plus improbables. Il y avait aussi des photographies du monde réel. Un ange à l'allure élancée et très stylisée retint son attention, et Alvar lui adressa la parole avec la facilité sans gêne qui n'existait que dans le paradigme. « Excusez-moi, j'aime beaucoup le style de votre ange. Je me demandais si vous connaissiez l'œuvre de l'architecte Marek Kanzas. » Il s'agissait d'une jeune femme rousse aux yeux mi-clos et aux lèvres noires. « Certainement, dit-elle, il est très à la mode en ce moment. Mais je n'ai malheureusement pas les moyens de m'offrir ses services dans la vie réelle. Attendez, je dois avoir quelque chose de lui tout de même. Tenez, ceci. » Elle tapa dans ses mains et des informations s'affichèrent instantanément dans une calligraphie ancienne à hauteur de son visage. Marek Kanzas, vue de la route, exposition définitive au Sainte-Marie du Paradigme. À côté de l'inscription, s'affichait aussi une photographie qu'Alvar avait déjà vue, représentant trois éoliennes blanches gigantesques, au pied desquelles passait une minuscule caravane noire. « Merci. Merci à vous d'avoir comparé mon ange à une création de Marek Kanzas. » La jeune femme rousse cligna des yeux en guise de salut, et Alvar saisit l'adresse sur son clavier. La téléportation fut immédiate et l'immersion dans ce spot inconnu assez brutale. Alvar, comme il l'avait dit au patron, n'avait jamais mis les pieds au Sainte-Marie de la Mer et ne savait même pas à quoi cela pouvait ou avait pu ressembler. Mais il sentait que cette zone du paradigme était comme le fantôme d'un lieu réel, peut-être disparu ou défiguré. Il y avait des ruelles blanches, entrelacées comme un dédale, qui débouchaient parfois de manière imprévisible sur la mer. Et puis il y avait des églises, et des mosquées aussi. Les clochers et les minarets s'élevaient au-dessus des toits de tuiles, et lorsqu'on prenait de la hauteur, on les voyait se dessiner nettement sur fond d'azur. Des mélodies de guitare gitane flottaient dans l'air, s'amplifiant lorsqu'on se rapprochait de leur source, ou s'évanouissant pour laisser place au ressac apaisant de la mer. On percevait aussi, dans un mélange vibrant, un claquement sonore, qu'Alvar identifia rapidement comme un bruit de sabots sur les pavés. Un chant polyphonique aux accents méditerranéens, des mains nombreuses qui frappaient une cadence. Ce spot n'était guère fréquenté comparé à d'autres, mais il dégageait une puissante impression de réalité, comme s'il était habité. Et de fait, Alvar se rendit compte que des anges vivaient là, tout comme il vivait avec Elena dans son cottage retiré, auquel nul ne pouvait accéder à moins d'en avoir l'adresse. Des centaines d'anges avaient construit leur maison pêle-mêle, fabriquant un village virtuel dont ils ne connaissaient aucun équivalent dans le paradigme. L'individualisme profond et sédentaire les poussait tous dans la même direction, vers la périphérie, vers les espaces vides. Mais les gnomes, car ils ne doutaient pas que ce fussent eux, investissaient les espaces publics du paradigme, ceux que tout le monde pouvait visiter, les lieux de passage, les routes. Avec un soupir content, Alvar déambula, observant les anges en conversation autour de lui, les groupes de musiciens qui se formaient et se défaisaient, les danseuses aux jupes virevoltantes, les nombreuses effigies de taureaux qui, depuis les bas-reliefs jusqu'aux motifs rupestres, décoraient la cité. Des objets qu'il n'avait jamais vus ailleurs étaient alignés sur les murets ou les margelles des puits. Il dupliqua une conque rose qui, lorsqu'on la mettait sur l'oreille, chantait une berceuse tzigane d'une grande beauté, ainsi qu'une statuette de taureau qui s'envolait lorsqu'on la lâchait en l'air et qui revenait docilement dans votre main. Il était difficile de dire qui étaient les anges qui fréquentaient ce lieu. Alvar continuait à penser qu'il s'agissait pour la plupart de gnomes qui se connaissaient plus ou moins dans la vie, mais il y avait aussi nombre de badauds qui, comme lui, inspectaient chaque détail du paysage. Rien ne distinguait les uns des autres. Les anges étaient tous différents par la morphologie et la pigmentation, mais la plupart étaient préarchitectés sur la même matrice. Ils étaient d'apparence jeune et belle et arboraient un air de famille universelle. Seuls quelques rares personnages d'une qualité supérieure se démarquaient, soit par leur taille plus haute, soit par la texture plus fine de leurs vêtements drapés, soit par le style artistique de leur visage. Il n'y en avait pas beaucoup ici. Alvar s'enquit de l'exposition de Marek Kansas auprès d'un ange à la forte carrure, qui lui indiqua l'entrée d'une petite église dans laquelle il pénétra. Comme souvent dans le paradigme, l'intérieur du bâtiment n'avait pas grand-chose à voir avec son extérieur, et Alvar fut surpris de se retrouver dans une vaste nef dont des vitraux blancs savamment disposés assuraient un éclairage contrasté. Chaque photographie de Marek était éclairée par un vitrail. Cependant, alors que dans une église réelle, la lumière ne pouvait pleuvoir qu'en bandes parallèles, les rayons ici se croisaient et se coupaient comme dans une figure géométrique compliquée. Alvar admira cet effet de lumière et reporta son attention sur les photographies exposées dont il reconnut certaines. Celle des trois éoliennes, celle de la fille en larmes qui fumait une cigarette, celle du chien. Mais il y en avait beaucoup d'autres. Un mur entier portait une série de plusieurs centaines de portraits, en noir et blanc et en gros plan. En les balayant du regard, Alvar reconnut le patron, ainsi que la mère de Marek et la liseuse de cygnes. Il supposait que ce mur représentait la caravane, et il se demanda si l'assassin qui avait froidement asséné le coup mortel à l'artiste se trouvait, ironiquement, dans cette galerie de portraits. Il y avait aussi des paysages, toujours un peu dévastés. Quelques herbes poussant difficilement dans un terrain vague minéral, plusieurs ruines agricoles, une série de photographies très graphiques de la route, de ce ruban parfois à peine visible, se déroulant dans les plis et les dénivelés d'une terre stérile, écrasée de chaleur, aux arbres penchés ou arrachés. Des scènes de la vie quotidienne aussi, qu'Alvar observa plus attentivement. Il reconnut le portrait des trois enfants, mais beaucoup d'autres aussi. Des photos d'une femme malade, recroquevillée autour d'un chat. De jeunes garçons buvant du vin dans les restes d'une fête. Un délicat l'air hagard, ouvrant le volet de sa roulotte. Et un autoportrait troublant, intitulé « Autoportrait en majesté », où Marek apparaissait de dos, vêtu d'un costume d'apparat, sur un fond de planches cassées et de roues tordues. Savait-on dans le paradigme qu'il était indélicat? Rien ne le certifiait. Marek Kansas et Marek Eskanza vivaient peut-être des vies totalement séparées. Les gnomes de sa caravane ne fréquentaient peut-être pas les Saintes Maries du paradigme, ou bien les rares qui connaissaient son secret le gardaient peut-être jalousement. Alvar repensa à la roulotte minuscule envahie de mouches où Marek Eskanza avait enfoui le mystère de sa vie et de sa mort. Cet être fragile et transparent, dont la peau portait la marque d'innombrables hématomes et dont les cheveux rares cachaient à peine le crâne, s'était hissé à la force de son imagination jusqu'à ceci. Cette nef où la lumière tombait à grands rayons perpendiculaires, cette œuvre qui vous poursuivait de sa sombre beauté, cette renommée. Et quelqu'un était arrivé par derrière, dans le secret misérable de son existence de nomade, dans sa roulotte un peu branlante où la peinture s'écaillait. Quelqu'un était arrivé et avait décidé de le tuer. Il était mort avant sa mère, la laissant seule avec son cancer. Et soudain, une question surgit dans la tête d'Alvar, une question qui avait la force et la simplicité d'une évidence, une question dont dépendait tout le reste et qui allait définitivement orienter son enquête. Qui avait-on voulu assassiner ? Marek Eskanza ou Marek Kanzas ?